Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Le Fil de l'Épée, un podcast consacré à l'histoire de la guerre et des conflits armés, une coproduction entre Le Collimateur et Paroles d'Histoire, podcast associé au Rubicon, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et ravi de vous retrouver André Loez pour parler de cette guerre fondamentale mais pas si connue de ce côté de l'Atlantique, la guerre de sécession américaine entre 1861 et 1865, revisitée et vue, disons, à travers le regard d'un Français présent et combattant aux côtés des armées nordistes.
Et justement, nous avons la chance de recevoir un spécialiste français de cette Civil War des États-Unis, Vincent Bernard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur la guerre civile américaine, dont une biographie du général Grant, également à Gettysburg dans la collection Champs de bataille chez Perrin. Et vous venez donc de publier Les mémoires de guerre de Régis de Trobriand, un officier français dans la guerre de sécession, aux éditions Passé Composé. C'est un texte que vous avez annoté, adapté, abrégé de l'original, paru en 1867. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour commencer, l'origine de ce projet, de votre travail sur cette publication ?
Alors Trobriand, c'est quelqu'un que je connais depuis très très longtemps, depuis les premières années de mon intérêt pour la Civil War, et c'est un texte qui m'a beaucoup servi pour avoir un regard non seulement d'un officier de rang, disons, intermédiaire, parce qu'il est colonel, ensuite général de brigade, donc il est quand même noyé dans de grandes armées, et puis il est français, il est d'origine aristocratique, il a immigré aux États-Unis quelques années avant la guerre, donc c'est un personnage extrêmement intéressant à la base, et donc un témoin aussi qui parcourt tous les quatre années de la guerre, qui commence à l'été 1861, qui va jusqu'à Appomattox en 65, et donc ça fait quelques années que je me trottais dans la tête de revisiter un petit peu ces mémoires qui sont un petit peu lourdes. Il y a 750 pages, il y a beaucoup de digressions qui aujourd'hui paraîtraient un petit peu superfétatoires. Et donc de revisiter ce texte-là en essayant d'en extraire justement le véritable témoignage, c'est-à-dire le vu et vécu de Trobriand et son expérience de terrain.
Et comment vous êtes tombé dessus ?
Parce que c'est pas, enfin, en faisant des recherches, ben quand on commence à se documenter sur les sources, on tombe. Enfin, quand on est français, on a tendance déjà à regarder ce qu'il y a eu en français, ce qu'il existe en français. On tombe sur quelques noms. Alors, ils sont pas très nombreux, mais bon, il y a le comte de Paris, évidemment, qui a fait une histoire monumentale de la guerre de sécession. Il y a le journaliste Duvergier de Oran, par exemple, qui fait un voyage honoré au Sud en 64-65. Et puis, on tombe très vite sur Trobriand dans son édition à la fois américaine, qui est parue dans les années 1860. Et puis l'édition originale française. Donc voilà, c'est en faisant des recherches sur je ne sais plus quel site de documentation américain, je suis tombé sur ce texte-là parmi d'autres et je l'ai conservé depuis.
Alors ça, c'est la manière dont vous êtes arrivé à Trobriand. La question corollaire, c'est la manière dont Trobriand est arrivé à l'Amérique et à la guerre de sécession, puisque c'est un parcours étrange, mais en même temps pas si rare que ça, puisque, comme on va le voir, puisque c'est très loin d'être le seul Européen, ni même le seul Français qui combat dans cette guerre, mais c'est quand même un parcours qui est pas banal, puisque c'est un aristocrate, plutôt légitimiste, qui se retrouve quand même à combattre pour du côté de l'Union. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être nous résumer comment Trobriand en vint à l'Amérique ?
Je pense qu'il y est arrivé par le plus grand des hasards, c'est-à-dire qu'il naît juste après la fin de l'Empire. Son père a combattu pour l'Empire, ses oncles aussi. Il naît dans une famille légitimiste, donc il est promis à devenir page de Charles X quand il est enfant. Survient évidemment la Révolution de 1830. Son père, n'acceptant pas la montée sur le trône de Louis-Philippe, lui retire son prénom. Normalement, Régis s'appelait Philippe. Au départ, Philippe Régis de Carignan de Taubriand. Donc, exit le Philippe, il va s'appeler Régis. Donc, jusque-là, il n'y a absolument aucun lien particulier avec les États-Unis, si ce n'est que, dans sa dans sa jeunesse, il a l'occasion de faire un voyage aux États-Unis avec un de ses amis, et puis, bah, comme beaucoup de gens, il va rencontrer une femme, tomber amoureux, d'abord emmener sa femme en Europe, puisqu'ils vont vivre à la cour en exil, en particulier de la duchesse du Berry. Et puis ensuite, bah, ils vont finir par s'installer aux États-Unis dans les années 1840. Et puis lui, il va y faire sa vie. Et là, la guerre civile éclate. Bah, il a la citoyenneté américaine, me semble-t-il, depuis 1855. Et la guerre le surprend à ce moment-là. Au bout de quelques mois, il décide de s'engager. Voilà.
Ce qui est marrant, c'est que donc il a un parcours où il aurait dû faire la guerre, déjà. Enfin, il y a un jeune aristocrate.
Il est frustré de carrière militaire, très clairement, puisque tous ses ancêtres ont porté l'épée.
Et d'ailleurs, on peut peut-être lever une ambiguïté. Je pense que la question qui brûle les lèvres des auditeurs du podcast, c'est le même Trobriand, la même famille, que celui qui a donné son nom à des îles du Pacifique, où l'anthropologue Malinowski a écrit son œuvre capitale au début du XXe siècle. C'est la même famille Trobriand.
Absolument. De mémoire, je ne peux pas vous dire, c'est un grand-oncle. En tout cas, effectivement, il y a plusieurs branches de la famille Trobriand, mais c'est bien sa famille. Il en est d'ailleurs très, très fier. C'est une vieille famille de l'aristocratie bretonne qui a combattu pour la France toutes les générations, sur terre ou sur mer. D'ailleurs, ils ont leur devise brillant sur terre comme sur mer. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est
habile,
très
le jeu de mots.
Voilà.
C'est une famille étonnante parce que vous notez quelque part dans votre avant-propos par un zogma magnifique qu'il est par hasard et par une tante apparenté à Simon Bolivar.
Oui, alors ça c'est le hasard total, c'est qu'une de ses tantes, effectivement, va épouser, alors dans des circonstances que j'avoue n'avoir pas plus creusé que ça dans le cadre de la préparation de cet ouvrage, mais il a effectivement une tante par alliance qui est mariée avec Simon Bolivar, je crois que c'est ce lien-là. Et donc il en parle, enfin sa fille en parle aussi, parce qu'elle a fait un livre retraçant sa vie et au travers de ses lettres en particulier. Donc il y a cette espèce de petite anecdote amusante qui faisait un premier lien, j'allais dire, avec le continent américain avant qu'il ne décide d'émigrer.
Alors, cette émigration, elle est très intéressante et en même temps, elle est un peu à contre-temps, ou comment dire, elle est en décalage par rapport à un autre phénomène qui est assez massif durant la guerre civile, c'est que c'est une guerre au cours de laquelle il y a beaucoup d'émigrés politiques cette fois. Lui, il est arrivé par le mariage et par un peu un accident de parcours biographique aux États-Unis, mais dans l'armée de l'Union en particulier, il y a beaucoup de gens qui combattent parce que c'est en gros des vaincus de 1848.
Absolument,
en Europe,
oui.
Et qui du coup, on a un Allemand comme Karl Schurz, on a des Polonais, des Garibaldiens, voilà, il y a toutes sortes de gens, on a une infusion en quelque sorte de combattants démocratiques post-1848 dans l'armée de l'Union.
Ah oui, absolument, il en croise un certain nombre d'ailleurs, qui pour certains vont faire carrière, pour d'autres vont faire trois petits tours dans l'armée de l'Union, puis finalement s'en faire éjecter assez vite parce que voilà, il y a de tout dans ces gens-là. Il y a des aventuriers, il y a des gens sincères, il y a tout un panel, y compris des Français d'ailleurs, hein, un personnage comme Gustave Cluseret par exemple, qui finira général de la Commune, est aussi intéressant à analyser. Donc oui, effectivement, Trobriand, lui, c'est pas cette génération-là. On pourrait dire que c'est un exilé de la Révolution de 1830 par la bande, mais c'est tout. Il est aux États-Unis un peu par hasard quand la guerre éclate. En revanche, il a une véritable conversion aux idéaux politiques républicains américains. Vraiment, il le dit lui-même. Hein. Il dit « J'étais français en France, je suis américain en Amérique ». Et c'est un sincère défenseur de l'Union. Il est très franchement hostile à l'esclavage. Il prend vraiment fait et cause pour l'Union de manière sincère. Pas simplement pour le port de l'épée.
Et alors, il y a quelque chose de très frappant, c'est que dans l'armée adverse, dans l'armée confédérée, donc l'armée sudiste qui défend, on va dire, un Sud attaché à ses traditions et à l'esclavage, on trouve aussi un légitimiste, un vrai légitimiste, le prince de Polignac, hein, donc descendant de la favorite de Marie-Antoinette et d'un ministre de Charles X. Voilà, c'est vraiment une figure extraordinairement identifiée à la droite ultra légitimiste en France. Mais lui, il y a une forme de cohérence biographique, puisque légitimiste, sud, traditionnaliste, esclavagiste, on comprend qu'il y a quelque chose de cohérent et trop brillant dans le camp adverse.
Oui, c'est pas le même parcours, effectivement. Il y en a un qui est en droite ligne, pourrait-on dire, même si il faut limiter les comparaisons avec les royalistes légitimistes en France et les sudistes de la Confédération. C'est pas tout à fait non plus le même profil. Mais non, Trobriand, il le dit encore une fois lui-même très, très sincèrement. Il dit que, il cite l'exemple de sa famille. Il dit, moi, mon père était en gros légitimiste. J'ai un de mes oncles qui était bonapartiste, pur sucre, et j'ai un autre oncle qui a été tué tué par une bombe anglaise. Enfin voilà, donc il dit voilà, voilà toutes les influences qu'il y a eu autour de moi. Donc bah, je me suis fait mon idée, puis finalement bah, j'étais de mon milieu en Europe, et quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai embrassé la culture du Nord, de New York, de Boston. Peut-être que s'il avait immigré au Sud, il aurait eu un autre parcours, hein, mais en l'occurrence à New York, il a rencontré ces idées-là.
Et il a aussi rencontré la possibilité de devenir officier, finalement presque magiquement, par l'élection, on va peut-être y revenir, alors que s'il était resté en France, il aurait dû franchir un certain nombre d'étapes longues et fastidieuses avant d'avoir ses galons. Et donc là, c'est aussi une situation d'opportunité pour jouer les premiers rôles, un peu aussi à l'image de ses aïeux. On comprend que il y a quelque chose là qui se joue pour lui, qui est une occasion à pas manquer, cette guerre.
Ah, tout à fait. Alors, encore une fois, il ne s'engage pas tout de suite. C'est ce qui est un petit peu étrange. Il aurait pu s'engager dès avril 61. Il attend un petit peu. Donc, est-ce qu'il y a eu des pressions autour de lui? Est-ce qu'il a réfléchi? Ça, j'avoue qu'il faudrait creuser un petit peu plus sa biographie pour en être certain. Mais en tout cas, oui, il saute sur l'occasion, et devenir colonel d'un régiment en un claquement de doigts, évidemment, c'est une carrière qui est absolument impossible en Europe, d'autant plus avec son pédigré. Oui, c'est une occasion. Et puis, il aime ça.
Mais ça renvoie à ce moment, à cette séquence extrêmement bizarre de la mobilisation des premiers mois de la guerre et le bordel que c'est total et qui raconte assez bien. C'est alors avec un autre truc qui... Mais bon, lui, ça lui réussit. Il y a d'autres personnages et d'autres carrières pour lesquelles c'est un peu moins heureux, mais que c'est généralement les gens qui lèvent des gens, qui deviennent des officiers, les officiers des gens qu'ils ont réussi à engager, à enrôler. Ce qui rappelle d'ailleurs totalement l'Ancien Régime et le fait...
Oui,
voilà, c'est un truc de temps long qui avait un peu disparu avec la Révolution française. En tout cas, on aimait à penser que ça avait disparu. Mais donc là, on voit cette espèce de séquence. Alors lui, c'est pas exactement ça. Il les engage pas tout à fait avec son argent. On vient le voir. D'ailleurs, on sait pas très bien pourquoi on vient le voir. C'est pas très clair dans le témoignage, si ce n'est qu'il est français. On peut supposer que la particule, ça doit bien faire. Vu qu'il a jamais vraiment combattu en Amérique, on voit pas très bien d'où vient sa légitimité, mais manifestement, il en a une.
Ben, il arrive à convaincre les officiers. Il reprend un peu un régiment au vol, c'est-à-dire un régiment de milices plus ou moins français. Quand on dit que c'est des Français, oui, il y a des Français d'origine, des Français immigrés, il y a d'autres nationalités, mais enfin globalement c'est un régiment français avec une identité française, mais qui n'arrivait pas à se faire admettre au service fédéral pendant plusieurs semaines. Donc j'imagine que dans les cercles français de New York, ça râlait pas mal. Et donc d'après ce qu'il en dit lui, d'après ce que dit sa fille, ils se sont tournés vers une personnalité qui avait voilà une dignité, une espèce d'éducation, un passé martial, ne serait-ce que par ses aïeux. Et donc on s'est tourné vers lui en disant, écoutez, est-ce que vous pourriez pas faire quelque chose? Donc il s'est proposé, en posant ses conditions, hein, il s'agissait pas de se faire, c'était pas une élection, l'élection était jouée d'avance, hein, s'il serait pas présenté s'il avait pas été élu, mais enfin, voilà. Donc il a dit, écoutez, moi je veux bien le reprendre.
La pratique légitimiste de la démocratie.
Voilà. Donc je veux bien reprendre le régiment, à condition que vous soyez prêts, et qu'on parte à la guerre, que vous me suiviez. Et comme manifestement son prédécesseur était un incapable, qui n'arrivait pas donc à organiser son régiment correctement, il a repris au vol, encore une fois.
Ça permet peut-être d'insister un petit peu sur ce moment, effectivement, comme l'a dit Alexandre, très bordélique de la première mobilisation avant des formes de conscription plus rationalisées, et sur aussi peut-être un moment dans l'histoire de la guerre au XIXe siècle, qui est un moment intermédiaire entre une forme de professionnalisation, conscription stabilisée fin XIXe, et puis des formes beaucoup plus bricolées et aussi beaucoup plus locales. On voit à travers tout son témoignage à quel point il dit là c'était les Pennsylvaniens, là c'est les Mississippiens, ici j'avais les Floridiens qui avaient tel caractère, etc. Mmh. On comprend que l'idée d'une armée de l'Union, c'est en partie une fiction qui recouvre des réalités extraordinairement disparates.
Ah bah ça, c'est consubstantiel de l'histoire américaine, de l'origine même des États-Unis. Effectivement, c'est l'héritage non seulement de la guerre d'indépendance, mais même avant, des colonies. Chaque État qui avait son identité propre organiser ses propres systèmes de milice. Alors, en 1861, quand débute la guerre, c'est extraordinairement variable. Il y a certains États qui ont encore des milliers d'hommes relativement organisés, entraînés, qu'on appelle régulièrement. Donc, ça fait en Virginie, par exemple, il y a des régiments qui se lèvent tout seuls quasiment parce qu'il y a des types qui sont habitués à le faire. Dans certains États, ça va totalement à volo. Depuis 1820, on n'a pas levé un seul régiment de milice, donc c'est beaucoup plus compliqué. Et pendant toute la guerre, donc, on a effectivement cette espèce de bricolage permanent. Non, alors qu'il prend des tas de formes, on ne va pas détailler ici, c'est compliqué, mais et avec une identité d'État qui reste très forte, très fortement marquée. Ce sont des États qui lèvent des troupes et qui les prêtent au service fédéral pour un temps donné, pour le temps de la guerre.
Avec les résultats qu'on peut attendre de ce mode aussi disparate, qui est que ben, au premier feu, souvent ça se passe pas bien. Souvent il y en a beaucoup qui disparaissent. Et d'ailleurs c'est très amusant, le premier combat que connaît son régiment, il y a je crois un bon tiers, voire plus, de son régiment qui disparaît d'un coup. Et Troubriant, tout échauffé, veut absolument tous les faire passer en cour martiale, oui, et fusiller, oui, les deux tiers. Et il y a son officier supérieur, dont le nom m'échappe à l'instant, qui lui dit « Attendez de voir, oui, parce que c'est pas tout à fait la première fois que ça arrive. Si ça se trouve, la deuxième fois, ça se passera mieux. » Et Troubriant doit bien reconnaître, bah, en fait, effectivement, la deuxième fois, ça s'est un peu mieux passé. Mais il y a quelque chose de... Bah, voilà, là, c'est les milices, c'est un peu la loterie. Mais il faut pas avoir trop des attentes d'aristocrates versés dans la carrière des armes. Et c'est une armée qui apprend, comme lui-même va apprendre le combat, quoi.
Bien sûr. D'ailleurs, la bataille de Williamsburg intervient déjà en mai 62, donc la guerre a presque un an. Et tout le monde a en tête à ce moment-là le désastre de Bull Run en juillet 1861, où littéralement sont deux armées de miliciens qui sont rentrées dedans. L'une, et puis il y en a une qui a lâché prise. Ça aurait pu être les sudistes, il se trouve que c'est les nordistes. Et qui illustre parfaitement cette espèce d'improvisation. Donc là, en mai 62, déjà un certain nombre d'unités qui ont un peu de bouteille. Donc lui, il est mortifié, quoi. Son régiment, son beau régiment avec ses képis rouges, ses pantalons rouges, et puis dont certains sont habillés en zouaves et sont superbes dans les parades. Et ben, il file dans les bois là, au premier coup de feu. Donc
c'est très frappant d'ailleurs, et c'est probablement une particularité de la milice, c'est qu'il passe beaucoup de temps à faire des défilés quand même. Au début.
Non mais ils s'ennuient, ils ont que ça à faire. Ouais,
mais vraiment, enfin, on voit qu'ils font des parades, Alors après, ça n'est pas tout à fait sans utilité militaire. On connaît l'importance du drill, le fait de marcher en ordre serré, etc. Ça n'est pas sans intérêt pour au moment d'affronter le feu à la bataille. Mais quand même, jusqu'à la première bataille effectivement de Williamsburg, à part défiler dans les villes, etc.
Alors lui, le Troubriant, il s'entraîne pas mal. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il est mortifié. C'est qu'il a, il a véritablement c'est pas un militaire professionnel, encore une fois, mais enfin, bon, il a une culture martiale évidente. Il a dû scoltiner à peu près tous les manuels de tactique de l'époque, que ce soit Jomini, que ce soit, enfin bon, tout ce qui lui est passé sous les mains. Et il a entraîné ses hommes. Et d'ailleurs, il le dit, même avec une certaine candeur au début de son récit. Il explique, ouais, mon régiment, il est pas mal, hein, franchement, par rapport à celui d'à côté.
Bon, et puis en plus, il y a des Bretons têtus, ou en tout cas des Irlandais, donc ouais, on peut dire que c'est des Bretons têtus, donc on peut jouer cette fibre-là.
Il aime bien les Irlandais, hein, il les trouve sales et alcooliques, mais il trouve que ce sont de très très bons combattants. Il y a quelques saillies comme ça, assez drôles, sur les Espagnols très dignes, les Italiens mauvais soldats, les Allemands disciplinés et les Français... orgueilleux aux parades, mais beaucoup moins en bataille. Donc, ouais, c'est un apprentissage pour lui aussi. Hein. C'est un apprentissage du commandement, c'est un apprentissage du combat, c'est un apprentissage de la guerre pour tout le monde à ce moment-là.
Pour rester un instant sur cette idée d'une armée qui n'a pas encore une forme parfaitement organisée, on a reçu il y a un mois à peu près Hélène Arter pour sa biographie d'Eisenhower, et c'est très frappant quand on compare les deux contextes, un siècle d'écart. Eisenhower, on est dans une structure très verticale, il y a un président de la République, il y a un chef d'état-major Marshall, il y a un chef d'unité d'opération Eisenhower, les choses sont très claires. Et là, on a l'impression d'un flou institutionnel, avec y compris un général en chef, McClellan, qui se permet de contredire celui qui, en théorie, lui donne les ordres, Lincoln. Un Lincoln qui passe discrètement, parfois on ne le remarque pas, et c'est plutôt vers les généraux que va l'attention. Et finalement, le pouvoir fédéral, on est encore à un moment, le pouvoir fédéral, et c'est d'ailleurs un des enjeux aussi à l'issue de la guerre civile, mais le pouvoir fédéral n'a pas du tout la place qu'il a au milieu du XXe siècle.
Ah, absolument pas. Et puis, non seulement le pouvoir fédéral est encore en porte-à-faux par rapport à l'autorité des États, et puis par rapport à l'armée fédérale elle-même, qui a un commandant en chef à cette époque-là, qui, alors d'abord, c'est Winfield Scott, qui est un vieux type, qui a une gloire nationale, mais enfin, qui va sur ses 80 et quelques années à ce moment-là, donc on l'écarte assez vite. Et puis ensuite, McClellan, qui se prend, bah, il faut le dire, hein, il se prend pour Napoléon, tout simplement, alors qu'au mieux, c'est un bon bertier, c'est-à-dire qu'il est un bon organisateur, il a su créer une armée à partir de pas grand-chose.
Ouais, les défilés marchent très bien avec lui, ça défile, il n'y a pas un bouton qui manque.
Voilà, l'organisation, la logistique qui s'améliore, mais il n'empêche que quand il faut la risquer... Alors, on a beaucoup tapé sur McClellan, il est moins incompétent qu'on ne le croit, il n'est pas mauvais quand il est en action, quand il est forcé d'être en action, il n'est pas mauvais.
Il ne veut juste pas y aller.
Il a une trouille bleue d'y aller, et puis il ne sait pas commander de l'avant, il reste toujours son quartier général à des kilomètres en arrière, ce qui crée des catastrophes. Donc, et puis sa relation avec Lincoln est exécrable. Et Lincoln ne trouvera finalement un général en chef qui lui correspond qu'avec Grant. Parce que Grant est un excellent général qui sait faire preuve d'initiative, mais qui ne lui marche pas dessus en termes politiques.
Mais alors, juste pour rester encore là-dessus, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que, bon, tant que ça n'a pas connu le feu, mais même à partir du moment où ça commence à péter, pour Troubriant, ce qui pose problème, ce n'est pas tellement les hommes, parce que ça, bon, encore, il peut gérer, c'est l'administration. C'est ça qui, c'est paradoxal, parce qu'on n'imaginerait pas ça de la part d'un aristocrate légitimiste flamboyant qui veut aller directement en découdre avec les sudistes. Mais en fait, ce qui le rend fou, c'est l'absence de commissaire, le fait que les payes, c'est le bordel, que les camions, ils suivent jamais bien les régiments, que quand on leur donne, d'ailleurs, quand on donne de l'argent aux soldats, on leur en donne toujours trop, et du coup, ils vont tout picoler. C'est vraiment le manque administratif qui irrite Troubriant et qui le rend responsable d'un bon paquet des maux de cette première partie de la guerre de sécession.
Oui, très clairement. Alors bon, vu la personnalité du bonhomme, on peut imaginer que s'il avait été officier en France, il aurait râlé à peu près de la même façon sur les manquements du système. Mais il se trouve que là, aux États-Unis, il tombe effectivement sur de l'improvisation totale, avec un système culturellement très différent. Alors effectivement, avec la paye, lui, ça le rend fou. Alors, c'est quand même très relatif, hein, les sommes qui sont distribuées aux soldats. La solde, elle n'est pas monstrueuse par rapport à la sienne.
52 dollars, c'est beaucoup trop pour lui.
Voilà,
parce qu'on leur donne deux mois d'un coup. Et c'est
surtout les Irlandais qui vont aller tout picoler tout de suite et puis prêter aux copains. Donc il a un certain nombre de pas. Et encore, j'en ai coupé un peu dans l'édition parce que il part dans des délires après, enfin des délires, dans des digressions sur l'art du commandement, sur ce que doit ou ne doit pas être un bon officier. Bon, on voit qu'il y a quand même il y a un tropisme très très particulier ce personnage. Et il se satisfait assez difficilement des hommes qu'il a sous ses ordres et en particulier au début de la guerre. D'ailleurs, il est très, très peu proche de ses officiers. Il en parle très très peu. Son lieutenant-colonel, qui est son second, il va le virer, par exemple. Alors que le type tient franchement bien les rangs. Il le remplace pas à Williamsburg, mais devant Richmond, quand lui est malade, justement, c'est son lieutenant-colonel qui le remplace. Le régiment se comporte très bien. Il n'empêche qu'il va le virer parce qu'il ne parle pas assez bien anglais pour lui. Donc, C'est un personnage un peu particulier aussi, trop brillant au niveau de l'autorité, au niveau des exigences qu'il peut avoir.
Y compris avec ses supérieurs, parce qu'il n'y a pas grand monde qui trouve grâce à ses yeux.
Voilà, il s'entend pas
French,
avec grand monde.
French, McClellan, Ankoff, enfin, il cite un grand nombre de gens en disant celui-là il était alcoolo, celui-là il était incompétent. Burnside, qui n'était pas visiblement l'homme de la situation, bon, ça, tout le monde s'accorde à la.
Il aime bien Burnside, mais effectivement, bien, il dit qu'il
constate qu'il n'est pas vraiment à sa place pour commander une armée, donc c'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. Peut-être aussi parce qu'il écrit au départ pour un public français, et du coup, il n'a pas non plus à ménager de susceptibilité.
Ouais, sans doute, c'est vrai. Alors, d'autant plus, il écrit d'abord pour un public français et il écrit en France. Donc, il est vraiment détaché de ce milieu-là à ce moment-là. Oui, c'est vrai qu'il a peu d'amis dans l'armée. Il en parle peu, le général Burney, qui va mourir avant la fin, et ça lui met un coup sur la patate. Mais sinon, oui, il a des relations qui sont manifestement assez difficiles avec la plupart part de ses supérieurs et de ses subordonnés.
Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a... Il se plaint beaucoup de quelque chose qui est absolument commun à toutes les armées du monde, c'est-à-dire le fait que c'est pas les bons officiers qui sont promus pour les bonnes raisons, etc. Tout ça, c'est politique, c'est de la magouille, etc. Enfin, on connaît un peu la chanson, mais en l'occurrence, dans le contexte américain, c'est pas inintéressant parce que il y a effectivement une intrication assez forte entre la scène washingtonienne, qui après tout n'est pas très très loin du théâtre des opérations.
Ah, même très pesante, oui.
Oui, mais ne serait-ce que géographiquement, quoi. Ils sont à quelques centaines de kilomètres, même pas.
Oui, donc on vient les voir, il y a des commissions qui se déplacent, qui font la route.
Il y a les dames absolument. Aussi qui viennent. Enfin, il y a toute une importance de l'opinion publique washingtonienne donc, qui ont primera. Mais manifestement, c'est quand même à ça que se jouent beaucoup de carrières de généraux et disons d'officiers supérieurs d'une manière générale. Oui. C'est sur les coteries à Washington. Et il se trouve que Troubriant, alors bon, là on a un. Il n'a pas l'air si mal introduit que ça, quand même, parce qu'il a l'air de connaître un peu du monde. Mais en tout cas, il a l'air de dire qu'il ne tombe pas du bon côté des promotions politiques à chaque fois.
Ah, très clairement, oui, il y a un moment, il y a une espèce d'aigreur qui monte, parce que. Et puis, c'est objectivement, quand on voit ses états de service, quand on voit qu'on n'a rien à lui reprocher, il n'a pas fait de grosses bêtises, il n'a pas. Il est encore colonel fin 1863, début 1864. C'est à peu près le dernier de sa génération qui a vu les combats depuis 1861 et qui n'a pas. Les autres soit ont été éjectés, soit ont été promus. Il est à peu près, enfin, il est un des rares qui soit encore colonel à ce moment-là. Et donc, oui, manifestement, ça lui pèse. Et alors le fait qu'il était français jouait aussi pas mal, le fait qu'il ait peut-être pas les bons liens à Washington, dans des promotions qui sont effectivement très très politiques, et qu'avoir la carrière de Grant, très clairement Grant n'aurait jamais gravi les échelons s'il n'avait pas eu un très très fort soutien politique de Washburn et puis de, en sous-main de Lincoln.
Peut-être une dernière question sur cette dimension politique de la guerre. Il faut qu'on parle aussi un peu du champ de bataille, mais il y a une chose assez frappante que Troubert raconte parce que c'est un événement qu'il a vécu. C'est novembre 1864, la réélection de Lincoln. Et il faudrait regarder, mais je n'ai pas le souvenir de temps de guerre où des militaires en campagne votent pour une élection nationale majeure. Les élections étaient suspendues en France en 14-18, évidemment sous Vichy. Voilà, là, on est en guerre. Et il y a pourtant une élection présidentielle avec tout ce que ça implique, avec l'ancien général en chef qui se présente contre président.
Oui,
donc c'est une situation.
À savoir McClellan, voilà, qui McClellan se présente sous le couleur du Parti démocrate.
Tout à fait.
Ce qui marque bien comment ça a dû se passer au début de la guerre pour qu'il en arrive là. Quoi.
Voilà, et du coup, et Troubert raconte comment votent les hommes de sa brigade, lui-même ce qu'il pense de l'élection. C'est très frappant ce moment, cette sorte d'irruption démocratique en pleine campagne.
Absolument. Oui, puis alors, le fait qu'il en parle beaucoup et que ça a beaucoup marqué, c'est qu'il y a une incertitude qui règne dessus très longtemps. À l'été 64, Lincoln est désespéré, il est sûr qu'il va être battu. Et McClellan, beaucoup pensent que... Il a gardé un prestige, il était très aimé de ses hommes, et le fait qu'il ait été éjecté assez tôt de la guerre, il a laissé un très bon souvenir à ses hommes, parce qu'il en prenait soin, parce qu'il les a organisés. Et donc il y a un doute, il y a un vrai doute, et on sent le soulagement de quelqu'un comme Troubert, pour qui les démocrates sont des limite des traîtres. Bon, il y a plusieurs courants chez les démocrates. Hein. McClellan, s'il avait été élu, il n'aurait pas fait la paix le lendemain matin avec les sudistes en disant « c'est bon les gars, restez chez vous, gardez l'esclavage, on coupe les ponts ». Non, évidemment que non. Mais ça aurait certainement causé une pause dans les opérations susceptible de permettre au Sud de se redresser un petit peu et d'espérer sortir du conflit victorieusement. Donc c'est une vraie peur qu'il y a chez un certain nombre de gens, et effectivement il est très soulagé de voir que globalement dans l'armée on vote à 80% ou 90, ou 75-80, ça dépend des endroits, mais pour Lincoln et pas pour McClellan.
In the army of the Union, we are marching in the van, and we'll do the work before us if the bravest soldiers can. We will drive the rebel forces from their strongholds to the sea, and we'll live and die together in the army of the free. We may rust beneath inaction, we may sink beneath disease. The summer sun may scorch us or the winter blast may freeze, but whatever may befall us, we will let the rebels see that unconquered we will still remain the army of the free.
The army of the free, the army of the free, unconquered we shall still remain the army of the free.
We have Butterfield the daring and we've Martindale the cool. Where could we learn the art of war within a better school? Add Morrell to the list of names and we must all agree. We have the finest generals in the army of the free.
The army of the free, the army of the free. We have the finest generals in the army of the free.
Then hurrah for our division, may it soon be called to go, to add its strength to those who have advanced to meet the foe. God bless it, for we know right well wherever it may be, 'twill never fail to honor our great army of the free.
The army of the free, the army of the free,
'twill never fail to honor our great army of the free.
Alors, maintenant, il faut parler de la guerre en elle-même, mais bon, c'est un point de vue particulier. Enfin, comment dire, c'est une porte d'entrée particulière, puisqu'il fait un certain nombre de batailles importantes, Gettysburg notamment, mais pas que. Et donc, c'est pas un mauvais témoin, mais cela dit, c'est pas forcément. Il voit pas l'intégralité de la guerre, il ne voit que ce qu'il voit
bien
en
sûr.
Tant que colonel, puis général de brigade, fonctionnellement, puis de titre à la fin. Mais on voit quand même les campagnes et la manière qu'il a de percevoir la guerre qui se passe sur les territoires du Sud. Et c'est ça qui est vraiment, c'est que l'essentiel des campagnes, alors à quelques exceptions au tout début et puis à un moment où, au moment de Gettysburg, mais la guerre, elle se passe au Sud. Et là, on voit qu'il y a une interaction qui est problématique avec les sudistes. Et c'est rare, c'est marrant, c'est rare de voir ça. Trobriand, il se plaint qu'on pille pas assez les fermes des sudistes.
Qu'on les punisse pas assez, ouais.
Ouais, c'est
pas
ouais et puis qu'on pille pas, qu'on vive pas sur le pays, quoi. Il trouve qu'il y a des fermiers qui vivent bien encore, qui ont des plantations qui se portent bien, et que, franchement, interdire les soldats d'aller taper les poules et de ravager un peu les champs, franchement, c'est un peu abusif, puisque, après tout, tous ceux-là sont des traîtres. Et c'est étonnant, parce que c'est rarement la vision qu'on a de cette... c'est rare de dire « Ah là là, la discipline militaire était trop stricte pendant une campagne ».
Oui, bah alors c'est, là encore, c'est un conflit très particulier dans le sens où au début, il y a une volonté de respecter les biens des sudistes, les biens des civils d'une manière générale. Alors les sudistes aussi le font. Hein. Lee, par exemple, fait plusieurs proclamations à son armée. Il n'est pas question de toucher aux biens civils, même si on sait très bien que sur les côtés d'une armée, il se passe toujours des choses. Mais bon, globalement, le règlement, c'est ça. Et c'est exactement pareil du côté du Nord. McClellan, en particulier, qui combat la Confédération, mais certainement pas le peuple du Sud. Et bah lui, oui, ça le rend un peu fou, parce que ce qui l'embête, c'est pas que les gens soient esclavagistes, c'est qu'ils soient des traîtres. Des traîtres à la République américaine. D'ailleurs, une de ses connaissances du début de la guerre, quand il est en station près de Washington, c'est... il séjourne dans une petite plantation qui est anciennement esclave. Alors, est-ce qu'elle l'est encore en 61 ou pas, c'est pas évident. Mais en tout cas, c'était des gens qui avaient des esclaves. Il devient très ami avec eux, il n'y a pas de souci. Donc, eux, c'est ses copains, il n'y a pas de problème. Par contre, dès qu'il rentre en Virginie, évidemment, c'est l'armée confédérée. Donc là, ce sont des traîtres. Et les traîtres, j'allais presque dire à l'européenne, on les punit, quoi. Et il ne comprend pas qu'on puisse avoir cette espèce de recul par rapport à. De différenciation entre le rebelle et les civils. Bon, c'est quelque chose qui va évoluer beaucoup. À la fin de la guerre, on a tendance plutôt à ravager...
Oui, mais là, pendant toute la première phase, il les prend pour des arnaqueurs, quoi, parce que, bon, évidemment, les soldats prennent des trucs. Les soldats prennent des trucs, mais du coup, les civils sudistes prennent des factures.
Ils viennent se plaindre pour être remboursés.
Ils trouvent ça fou qu'ils prennent la facture. Ils se disent, je suis sûr qu'ils gagnent du pognon là-dessus, en plus.
Ça, vraiment, ça leur dingue. Mais c'est la norme. Il y a une espèce de consentement, enfin, d'accord tacite entre les deux camps pour... Il y a plein d'exemples. Par exemple, la femme du général Lee et sa fille qui se retrouvent coincées derrière les lignes nordistes, et ben quand on apprend ça, on leur envoie un général très poliment qui vient les emmener sur la ligne de front entre guillemets pour qu'on puisse elles puissent franchir les lignes tranquillement sans être embêtées. On met des plantons de garde devant les propriétés de généraux sudistes connus pour pas qu'il y ait de dégradation. Enfin, il y a tout un fonctionnement comme ça qui va encore une fois évoluer avec le temps et qui paraît très 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 malvenu à quelqu'un comme Trobriand.
Oui, ce serait bien entendu avec Sherman qui, à la fin de la guerre, effectivement, considère qu'il n'y a plus de gants à prendre avec les civils du Sud et le prouve. C'est intéressant ce que vous dites sur... C'est membre de la famille du général Lee qu'on traite avec des égards. Il y a des moments où il y a des échanges de prisonniers, il y a des moments où il y a des échanges de blessés, etc. Et du coup, ça renvoie à un débat, alors bon, qui n'est pas présent directement chez Trobriand, mais il permet aussi de poser cette question. La guerre de sécession a souvent été lue historiographiquement comme un des premiers moments de totalisation de la guerre, avec ce concept à la fois usé et en même temps toujours réactivé de guerre totale. Et ce qu'on a tendance à dire aujourd'hui, c'est, comme pour la Première Guerre mondiale, c'est qu'elle ne l'est pas dès le départ. Mais en revanche, qu'il y a des processus de totalisation, ouais, que plus on avance dans le temps, plus effectivement, les normes qui régulent la guerre tendent à s'effondrer, ouais. Les civils sont de plus en plus pris pour cible, etc. Et du coup, chez Trobriand aussi, on va voir cette...
Pour détailler cette idée, je signale qu'une référence comme ça, il y a un excellent tome de la très belle série Mondes en guerre aussi chez Passé Composé, dirigé par un certain André Loez qui développait un peu cette idée-là.
Merci Alexandre. Et du coup, la question, alors on avait justement un peu parlé de la guerre de sécession, de cet épisode de la marche de Sherman dans le Sud. Alors il n'en parle pas, il n'en est pas témoin direct, mais à travers son récit, on voit aussi que les logiques de 1864-65 sont plus les mêmes que celles du début de la guerre, du point de vue notamment du traitement des prisonniers. Il fait référence à un moment, d'ailleurs je voulais vous poser la question sur cet épisode, au massacre de Fort Pillow, hein, qui est intéressant parce que là, une dimension de totalisation avec en plus une dimension raciale. Est-ce qu'on peut en dire un petit mot? Parce qu'il dit, j'ai été témoin de la colère des soldats noirs de l'Union contre les sudistes après ce qui s'est passé à Fort Pillow.
Bien sûr, oui, c'est pour ça que j'ai laissé le. C'est un des rares passages que j'ai laissé, alors qu'il n'en est pas témoin direct, mais effectivement, parce que c'est une affaire énorme, le Fort Pillow qui a un retentissement dans tout le pays. Alors les sudistes jurent leur grand Dieu qu'ils sont pour rien, qu'ils n'ont rien fait. Forrest dit qu'il n'est pas responsable, qu'il était.
Racontez-nous, expliquez-nous ce qui se passe
là-bas. C'est simplement la cavalerie du général Nathan Bedford Forrest qui se fera connaître en étant cofondateur du Ku Klux Klan après la guerre, donc ça situe un peu le personnage, mais enfin qui est quand même plus complexe et ambigu que ça aussi, et qui donc fait un raid de cavalerie sur un fort qui est tenu par une garnison noire, et enfin avec des officiers blancs, hein, parce que c'est l'armée fédérale n'a que des officiers blancs. Et la capture tourne au massacre finalement, alors avec toujours les éternelles questions dans ces cas-là, est-ce qu'il s'était rendu à temps ou pas rendu à temps, est-ce que l'officier en charge s'est enfui, pas enfui, donc il y a toute une discussion derrière tout ça, pour connaître les circonstances exactes, mais il n'empêche qu'au bout du bout, la garnison est quasi intégralement massacrée, et que parmi les victimes, c'est une grande quantité de soldats noirs, et donc ça les rend fous furieux effectivement, donc il y a une série de représailles... Et donc c'est une affaire qui, alors trop brillante, ça le c'est pas le seul, il fait écho à toute la société à ce moment-là qui est pour qui c'est. Alors, j'ai failli dire Oradour sur Glane, j'aime pas les comparaisons, mais c'est dans le cadre de ce conflit-là, c'est un peu du même ordre, c'est-à-dire un massacre de grande ampleur qui intervient dans une guerre qui, a priori, n'était pas si brutale que ça. Voilà, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais la comparaison n'est pas raison, mais voilà, le Fort Pillow, c'est un peu ça dans l'histoire de la guerre de sécession. Et c'est quelque chose qui va rester profondément ancré, alors encore une fois, avec des débats, c'est moi, c'est pas moi, c'est... Et qui illustre, la problématique des soldats noirs. Les sudistes n'acceptent pas que les noirs combattent pour le Nord, parce que pour eux, c'est une révolte d'esclaves. Ils considèrent ça comme une révolte d'esclaves. Donc si les soldats noirs se battent, c'est pour venir nous massacrer dans nos maisons. Donc ils les traitent de manière... Ça ne veut pas dire qu'il y a des massacres systématiques, ça ne veut pas dire que... Mais voilà.
Voilà, un soldat noir n'est pas légitime à porter les armes.
Il n'est pas légitime.
Du Sud, voilà. Comme certaines armées ont traité les francs-tireurs, comme
exactement.
L'armée allemande en 14. Un franc-tireur n'a pas apporté les armes, et du coup, il sait à quoi il s'expose, il peut être fusillé. Je dis à le passage qu'il y a des gens qui se sentent de corriger la VF de l'article Wikipédia sur Fort Pillow, qui est très, on va dire, euphémisée en utilisant la VO qui est bien plus détaillée, la version anglaise. Ce sera tout à fait bienvenu. Alors, du coup, ça amène une question. Comment cet aristocrate breton voit ses soldats noirs? Quelle est sa perception de l'esclavage? Vous le dites évidemment dans l'avant-propos, et vous l'indiquez par un sic quand le terme est employé. Il emploie le vocabulaire d'un homme de son milieu, de son époque. Il parle de nègre, mais ça implique pas qu'il est forcément un jugement dévalorisant. Donc voilà, quel est son rapport à cet enjeu qui est un enjeu central, évidemment, de la guerre civile?
Alors, il est abolitionniste dans le sens où je ne sais même pas s'il se pose la question dans ces termes-là. Enfin, pour lui, posséder des hommes, c'est quelque chose qui ne se défend pas. Par contre, son rapport aux hommes noirs, alors il considère qu'en termes de troupes, ce sont de très bonnes troupes, c'est pas si fréquent que ça. Il y a beaucoup d'officiers nordistes qui considèrent que les troupes noires sont des troupes de deuxième zone, bonnes à garder les formes et pas plus. Donc lui, non, il considère que ce sont des bonnes troupes. En revanche, dire qu'il n'a aucune prévention sur les personnes de couleur noire, ça serait aller trop loin, parce qu'il a... Il y a même quelques phrases qui sont frappantes dans ses mémoires, où il a un garçon d'une dizaine d'années, un noir, dont il a fait, dit-il, l'acquisition en Virginie. Donc il en parle comme un sudiste parlerait d'un de ses esclaves. Et donc il a ce rapport aussi qui est très, je sais pas, colonial peut-être.
Paternaliste.
Oui, voilà, c'est ça. C'est un rapport assez européen, c'est-à-dire qu'on est très paternaliste, mais sans aucunement accepter l'idée qu'on les sudise, qu'on puisse posséder des gens.
C'est intéressant parce que c'est, comment dire, c'est un cas quand même étonnant de quelqu'un qui va au front, qui y va même beaucoup, et qui n'est jamais blessé, qui se prend jamais un coup de feu, et on n'a même pas particulièrement l'impression qu'il est passé très proche. Enfin, après, quand il le raconte, il l'euphémise peut-être, etc. Mais enfin bon... Bon, honnêtement, il s'en sort très bien, sauf, et c'est là qu'il est révélateur peut-être de quelque chose, il est vraiment pas loin d'y passer, mais il est pas loin d'y passer par la maladie. Par une fièvre des marais en 1862, je crois, qui est à deux doigts de l'emporter. Et Mais c'est intéressant parce que ça dit quelque chose de ce qu'est la mortalité dans la guerre de sécession. Alors oui, certes, c'est des batailles, c'est des boucheries, c'est vrai, il y en a beaucoup. Mais il y a aussi des conditions sanitaires qui sont absolument déplorables. Et il y a des épidémies qui ravagent les rangs, et notamment qui vont ravager les rangs de l'Union dans cette première poussée vers le sud quand ils arrivent pas très loin de Richmond. Et d'ailleurs, qui a été prévu, en tout cas, c'est comme ça que Troubrian le raconte, c'est, il dit qu'un soldat sudiste lui avait dit que ça allait se produire, qu'ils y vont arriver au moment de l'été, au moment de la fièvre des marais, dans les marais, et que ça va arriver. Et de fait, bah, c'était relativement prophétique parce que Troubrian est pas loin d'y passer avec un coup de fièvre typhoïde.
Ah oui, bah c'est de... absolument. Bah les sudistes sont en défense et donc ils connaissent leur territoire, ils connaissent leur terrain, ils savent très bien que c'est des marécages, ils savent très bien que les épidémies vont s'y... parce que c'est... ils ont toutes les saisons, ils ont la même chose, même en temps de guerre, la mortalité au sud, même parmi les populations civiles, il y a des épidémies monstrueuses. Hein. Et pour les soldats, bah c'est la même chose, parce qu'il y a à peu près deux tiers, un tiers, hein, deux tiers de morts par maladie et un tiers de morts par les combats. Et c'est particulièrement
quand,
vrai. Donc
quand on voit les nombres de morts par les combats, ça laisse envisager ce que c'est les épidémies pour ces armées-là. Quoi.
Oui, c'est, alors, et c'est particulièrement vrai sous ces latitudes-là, c'est-à-dire les marais de Virginie, de la péninsule de Virginie, c'est quelque chose, c'est ça. C'est un environnement miasmatique qui est terrifiant. Quoi. Il y a des milliers de... vraiment des dizaines de milliers de types qui vont tomber malades. Puis alors, là, sur ces fièvres-là, il y a un mort sur quatre, quoi, ou un mort sur trois. Ça dépend. C'est vraiment quelque chose. Et donc, oui, comme vous le disiez, Troubrian, je pense que s'il avait une balle qui lui avait sifflé aux oreilles, il l'aurait raconté. Il aurait été très fier de raconter ça à sa fille.
Mais il parle un moment de la loterie des batailles hein, pour les officiers. Ouais, les officiers ne sont quand même pas à l'abri, en tout cas, les officiers comme lui qui sont colonels, ne sont quand même pas entièrement à l'abri d'une balle qui pourrait arriver.
Mais il a une théorie, alors c'est pareil, c'est un passage que j'ai en partie coupé parce que ça devenait un peu ésotérique, mais qu'un historien peut aller chercher dans l'édition originale. Il y a une théorie là-dessus, sur le destin. Certains seraient marqués par le destin, donc il sait, lui, il va mourir, moi je vais pas mourir. Enfin bon, tout un truc autour de ça qui est un petit peu curieux. Mais lui, oui, effectivement, il échappe à tout ça. Sauf que, encore une fois, au printemps 62, il est vraiment à deux doigts d'y passer. Il y a quelques pages qui sont très émouvantes. Il raconte sa maladie, il raconte ses délires, il raconte ce qu'il voit. Il voit ses tripes qui s'étonnent. Enfin bon, des trucs qui sont assez... intimiste, hein. Il y a quelques pages comme ça, de cet ordre-là, et qui renvoie, oui, à cette problématique des maladies, alors qu'il se développe beaucoup dans les camps militaires, dans les camps prisonniers, n'en parlons pas, dont souffriront beaucoup les soldats noirs, dont on parlait tout à l'heure, puisque leur taux de mortalité est plus élevé que celle des soldats blancs, et en particulier à cause de conditions sanitaires dégradées. Et puis oui, effectivement.
Sachant qu'il n'y a pas que la fièvre uniquement transmise par une eau de mauvaise qualité, mais il y a aussi les effets indirects du combat. Il évoque à un moment, c'est page 124, je sentis, en poussant la porte, je sentis une résistance dont j'ai bientôt reconnu la cause. C'était un monceau de jambes et de bras coupés jetés dans un coin du corridor. Et donc les amputations à la chaîne dans les postes de secours, on sait qu'il y a un certain nombre de gens, on les a amputés pour qu'ils ne soient pas victimes de la gangrène, enfin ça ne les a pas sauvés quand même.
Ah oui, il y a un taux de mortalité très, 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 très élevé, puis on sait faire que ça à ce moment-là. Hein. Le moindre problème, on coupe le bras, on coupe la jambe. Alors j'ai pas en tête, je vous avoue, le taux de mortalité après amputation, mais il est extrêmement important. De mémoire, il y a 70 000 ou 80 000 amputés, je crois, pendant la guerre. Je ne vais pas dire de bêtises, il faudrait vérifier. Mais c'est quelque chose qui est... Oui, la scène, quand il visite l'hôpital, c'est quelque chose de...
Oui, ce qui permet de dire peut-être un mot des qualités du témoin, parce que il y a des moments où on est un peu frustré, parce qu'on a l'impression qu'il reste un peu dans son monde, un peu aristocratique, et que on aimerait un peu plus de détails, on aimerait être plus au fond de la tranchée, quoi, avec le troupier. Il parle assez peu de ses hommes, finalement, il y a ces distances. Puis il y a des moments où il y a des très belles pages, il y a des belles évocations, quand il raconte l'explosion d'une mine, c'est très puissant, quand il décrit effectivement des scènes post-bataille avec des cadavres, avec le sang caillé, la vision que ça provoque. Il y a des pages qui sont belles. Comment vous le voyez en tant que témoin, en ayant lu évidemment beaucoup d'autres auteurs qui ont raconté à la première personne cette guerre?
Ah, mais c'est très, vous l'avez très bien écrit, c'est exactement ça. Il a une certaine distance qui maintient, je pense, volontairement. Alors son récit est évidemment réorganisé ensuite, mais c'est tiré directement de son journal de guerre. Et effectivement, il y a des moments. Alors, ça se voit aussi avec sa correspondance avec sa fille, sur laquelle j'ai pas mal. Que j'avais à côté, justement, en relisant son livre. Et parfois, c'est pas tout à fait la même version. Et on sent qu'il a. Voilà, il essaie de garder cette distance aristocratique. Puis après tout, il est colonel. Hein. C'est pas n'importe qui non plus. Il est pas. Mais. Parfois, bah voilà, il voit les corps boursouflés, il voit les jambes, et on sent que ça le prend. Et la façon dont il le raconte, c'est sa façon à lui aussi, à mon avis, d'expurger un peu ce truc-là. C'est que on passe d'un, il y a l'image qui veut se faire de la guerre, parce que même à la fin de son récit, il est toujours bon. La guerre, c'est dur parfois, mais j'aime ça. Voilà, j'aime l'uniforme, j'aime qu'on me regarde, qu'on me salue, j'aime le prestige associé. Et il n'empêche que voilà, il y a des images qu'il peut pas oublier et qu'il a, et celle de l'hôpital est une des plus fortes.
C'est un chef d'infanterie. Comment ça se passe, le combat interarmes pour lui? Parce que c'est une guerre au cours de laquelle il décrit les ravages de l'artillerie, il est témoin de charges de cavalerie, mais lui, bon, c'est plutôt quelqu'un qui a organisé son régiment d'infanterie. C'est un moment où c'est évidemment important d'essayer de coordonner tout ça. Comment ça fonctionne?
Eh ben, ça ne fonctionne pas. À son niveau, en tout cas, très peu. Il a une très belle description que je reprends dans l'introduction. Il montre ce que c'est pour un colonel de voir la bataille. C'est-à-dire, en fait, il voit rien, si ce n'est son régiment. On lui dit d'aller devant, il va devant. On lui dit de tourner à droite, il tourne à droite. En gros, il voit le régiment d'à côté.
Notamment à Gettysburg, il paume complètement tout le monde. Il se retrouve à la fin tout seul. Il retrouve des gens. Il est bien heureux que ce soit
d'ailleurs pas des sudistes. Plusieurs fois, à Fredericksburg, c'est pareil. Il charge dans la nuit. Il se retrouve à Chancellorsville, idem. Oui, c'est quelque chose de très. C'est un des grands intérêts de ce témoin à la position qu'il occupe, parce qu'on a souvent les témoignages de généraux, évidemment, qui racontent leur mémoire. On a parfois des lettres de soldats ou des témoignages de soldats. Là, on a un vrai récit au niveau intermédiaire. Donc, on voit effectivement ce que c'est que d'être un colonel sur le champ de bataille. Alors, au niveau interarmes, il n'a aucun contrôle sur l'artillerie. La cavalerie, c'est encore autre chose, parce qu'elle opère en général de manière totalement autonome. C'est-à-dire, en gros, elle fait le tour du champ de bataille pour éviter que la cavalerie d'en face les surprenne, mais elle est très rarement imbriqué, ça peut arriver, mais c'est assez rare.
On le voit bien avec le capitaine Stark notamment, qui est une figure évidemment très importante de ce point de vue-là.
Extrêmement réaliste également. Et voilà, donc le côté interarme, ouais, même quand il commande une division, hein, à la fin, il a 5, 6, 7 régiments d'infanterie, parfois jusqu'à 10, je crois. Ils ont tellement perdu en effectif qu'on lui en colle 10 à la fois pour faire un peu de monde. Mais il a très peu de rapport avec le reste, quoi. De temps en temps, je crois au début du bouquin, il parle, ouais, le régiment de cavalerie d'à côté, qui nous est passé devant, et puis le colonel qui est pas bon du tout. Enfin bon, il a quelques commentaires comme ça. Il y a très, très peu d'interactions. Alors au niveau supérieur, évidemment, oui, quand on commande un corps d'armée, quand on commande à force sur une armée, on articule un petit peu tout ça, les réserves d'artillerie, mais à son niveau à lui, non, il commande un régiment, puis une brigade d'infanterie, brièvement une division, mais c'est de l'infanterie. Voilà.
Sous une forme relativement pré-moderne, il y a peu de présence du train, il y a peu de présence, il y a des histoires de bivouac totalement bricolées avec des tentes qui prennent l'eau. Enfin voilà, on a l'impression que la modernisation de la guerre, qui est une réalité pendant cette guerre, est pas tellement sensible dans son témoignage. Il fait une guerre encore très artisanale.
C'est assez vrai. Alors la modernisation existe, même si elle est sous-jacente, c'est-à-dire que le ravitaillement qui lui parvient finalement quand même, il arrive souvent par train ou il arrive par des lignes de ravitaillement maritime qui sont quand même assez élaborées. Les ordres arrivent souvent par le télégraphe. Mais oui, au quotidien, bah, ils marchent dans la boue, ils ont des tentes à l'ancienne, ils font leur feu de bivouac. On est vraiment à la transition, hein, entre deux périodes, entre les guerres napoléoniennes et puis ce que deviendront enfin, ce sera en 1914 avec les premières roulantes, et on est entre deux mondes.
Alors, in fine, c'est... Donc il va terminer la guerre au rang de général de brigade, après avoir eu comme... Bon, mais c'est des grades de guerre, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il va en sortir et il va être réintégré ensuite dans l'armée, il va redevenir officier, ce qui est, vous l'écrivez, rarissime, quand même. Et ce qui renvoie à ce qu'est, demain, on en parlait avec Hélène Arter il n'y a pas si longtemps, le fait que, il n'y a pas trop d'armées aux États-Unis en vérité, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Bon, c'est quand même un pays très sous-militarisé, et vous décrivez, c'est quelque chose de quand même tout à fait exceptionnel d'être officier d'active, surtout pour quelqu'un qui n'était pas américain à la base.
Ah oui.
Et ça dit quelque chose quand même de la manière dont son parcours dans cette guerre de sécession a été perçu a posteriori.
Oui, oui, c'est bien pour ça qu'il est. Quand je disais qu'il avait un peu d'aigreur à pas avoir été promu plus tôt, c'est que ses états de service sont quand même assez brillants. Et l'honneur que lui fait Grant, il le ressent comme ça, il le décrit comme ça. Quand il le rappelle pour commander un régiment d'infanterie, lui qui n'est pas militaire professionnel, qui est un immigré français, oui, c'est une reconnaissance très claire de son parcours. Alors ensuite, pour expliquer, il faudrait rentrer dans les détails de l'organisation de l'armée fédérale et pourquoi il est réintégré comme colonel alors qu'il a été général de division par brevet, bon, c'est encore une autre histoire. Mais c'est un...
Et c'est pas exceptionnel d'avoir quelqu'un qui est promu. Enfin, il y a les grades de guerre et les grades de temps de paix. Et...
C'est particulièrement marqué aux États-Unis. Hein. C'est vrai qu'on peut être général de... Avoir commandé un corps d'armée pendant la guerre de sécession et puis finir avec un régiment de 500 types et le grade de lieutenant-colonel sur la frontière indienne 5 ans plus tard. Donc c'est un système qui est quand même un peu particulier.
Merci beaucoup Vincent Bernard.
Et merci à vous.
Je rappelais donc les références de cet ouvrage, de ces mémoires parus récemment chez Passé Composé, Régis de Troubriant, un officier français dans la guerre de sécession. C'était donc Le Fil de l'Épée, un podcast produit et co-animé par Alexandre Jublin et André Loez, distribué par Binge Audio. On vous rappelle que toutes remarques et commentaires sont bienvenues, suggestions aussi par mail sur les réseaux sociaux du Rubicon, d'André ou de moi-même, comme notes et appréciations sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com